tout à l'heure sur la nécessité de quitter et les facteurs push, on les retrouve forcément. On va de toute façon les retrouver forcément parce qu'ils sont caractéristiques de toute consommation touristique. Donc, il est quelque part normal que les touristes annoncent qu'ils sont venus chercher une coupure avec leur vie quotidienne et quitter leur environnement urbain. Par contre, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que la montagne, elle offre un contraste par rapport au quotidien qui est, je dirais, sidérant et particulièrement puissant. C'est-à-dire qu'on va transférer en quelques heures des individus qui sont dans un environnement, on va dire, urbain en hiver, qui n'est pas forcément très plaisant, sombre, pollué. S'il neige, c'est tout de suite une galère en centre-ville. Et on va les transférer, comme je l'ai dit, en quelques heures, dans un environnement où, dans la plupart du temps, ils vont avoir du soleil, des couleurs, beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité, un blanc immaculé et beaucoup de lumière. Donc en fait, c'est un contraste qui est très très saisissant et que les gens apprécient particulièrement et qui fait que quand ils viennent en vacances au ski, d'un seul coup, ils se sentent tout de suite en vacances parce qu'ils arrivent dans un univers en contraste important. Quand ils arrivent en station, ce que les touristes évoquent également, c'est qu'ils ne veulent pas retrouver des aspects qui vont les ramener à leur quotidien donc qu'ils ont cherché à quitter. Donc pas trop de foule, pas de voiture, pas de stress, pas de béton. Alors ça, c'est dans l'idéal, hein, on est bien d'accord, puisque dans beaucoup de stations, on va retrouver certains de ces problèmes. Et puis, je vous ai parlé de rythme la dernière fois. Finalement, on s'est rendu compte que dans les vacances au ski, ça fait partie de ces vacances, il y a quand même des rythmes. Hein. Il y a des horaires d'ouverture de crèches, il y a des horaires d'ouverture de remontées mécaniques, etc. Et finalement, il y a un certain rythme qui s'impose sans que cela pose un problème aux touristes que l'on a rencontrés. Ce qui serait d'ailleurs sans doute moins vrai en été. Alors, pour vous donner une idée des citations qu'on peut récolter sur ce sujet, alors ça nous permet vraiment de nous couper de notre petit monde parisien et puis du monde du travail, ça coupe complètement. Je pense plus du tout au boulot, à ce qui me prend la tête à Paris, ça me fait vraiment du bien et quand je reviens, je suis requinquée et c'est reparti pour un tour. C'est un très grand plaisir et puis on se ressource d'oxygène pur. On vient de Paris, région très polluée, ça change complètement, même l'environnement est magnifique. On préfère les vacances à la montagne que les vacances à la plage. Je ne sais pas si c'est l'oxygène, mais on se réveille complètement requinqué, pas fatigué, même si on a passé de mauvaises nuits. Cette notion, elle est intéressante. Quand on a interrogé des gens sur la capacité des vacances à la montagne de les ressourcer, ils expliquent que quand ils viennent à la montagne, ils se mettent beaucoup plus rapidement dans l'ambiance vacances qu'en été. En été, ils disent qu'il nous faut 3-4 jours sur la serviette pour oublier les collègues, la liste de mails qui s'accumule sans doute au travail pendant qu'on est en vacances, etc. Alors qu'au ski, on se met tout de suite dedans et c'est parti. Alors le fait qu'il n'y ait souvent qu'une semaine, qu'elle ne soit pas donnée non plus cette semaine, peut en partie expliquer ça également. Ici, ça m'apporte beaucoup parce que déjà quand je repars, c'est un bol d'oxygène. Après, on repart sur Paris, c'est terminé. Ça me remet en forme pour 3 mois. Une semaine ici, c'est énorme. À la limite, c'est même plus revigorant que la mer. Une semaine ici, par exemple, à la mer, il faut déjà passer 15 jours pour se sentir aussi bien. On a même demandé aux gens ce qu'ils préféraient, s'ils avaient à choisir. Et il y a une grande partie d'entre eux qui choisiraient de garder l'hiver au détriment de l'été. Et de continuer à partir l'hiver et puis l'été de se faire simplement des petites coupures. Alors, l'imaginaire alpin est très étudié. Je ne vais pas tout détailler ici. Il y a de nombreux ouvrages très bien faits sur ce sujet. Il y a 2 niveaux sur l'imaginaire de la montagne quand les touristes arrivent en station. Il y en a un à la station et puis il y en a un deuxième qui est au niveau de la montagne qui l'entoure. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est la puissance de l'imaginaire alpin. Alors là aussi, je suis pas historienne, mais on se rend compte qu'il y a un imaginaire qui remonte très très loin dans l'enfance, qui est doté d'un très fort affectif, qui est excessivement positif, qui est très doux. Donc en fait, on a une image préconçue, un peu Heidi, surtout sous la neige, qui est très très puissante. Alors les sapins, recouverts de neige de préférence, les couvertures bois, après on n'a pas beaucoup de discernement sur le bois. Le bois d'une manière générale, sur les habitations, c'est ce que les gens recherchent. Et puis, d'une manière générale, l'image d'Épinal, c'est le petit village alpin. Alors, s'il a des chalets en bois avec une petite église, le tour couvert de neige, c'est vraiment fabuleux. Le deuxième point ici est intéressant. C'est un aspect qui est très étudié par les sociologues du tourisme. Le fait que quand les touristes arrivent, ils ont une image préconçue qui est tellement forte dans leur esprit qu'ils vont adapter ce qu'ils trouvent sur place à l'image qu'ils ont conçue et non l'inverse. Et c'est assez intéressant de voir comment des gens dans certaines stations sont capables de remarquer certains aspects et d'en ignorer d'autres pour que justement ce qu'ils trouvent sur place corresponde à ce qu'ils avaient en tête avant d'arriver. Donc ça, je l'ai dit, quelques icônes de base. Alors, juste un petit rajout sur le fait que les touristes ne sont pas dupes et acceptent de jouer le jeu. On a une des personnes à Avoriaz qui nous disent « On voit bien que ce sont des immeubles, mais ils sont bien déguisés. » Donc, hein, typiquement. Hein. Alors, pour faire une référence très brève à Bourdieu, avec justement un petit bémol, c'est-à-dire qu'entre guillemets, plus on monte en gamme et bon, plus on paye, moins on va admettre d'être loin de cette image d'Épinal. Donc plus on va vouloir avoir format chalet, tout en bois, et vraiment plus on va souhaiter se rapprocher de ça. D'ailleurs, on le voit très bien dans les magazines de standing et autres. Voilà, et puis ce décor, quelque part, il rassure les touristes. Il rassure qu'ils ne se sont pas trompés, qu'ils ont bien réservé des vacances au ski, qu'ils sont bien à la montagne. Donc dès qu'ils arrivent, voir du bois, c'est important pour eux. On est bien à la montagne. Alors, le deuxième niveau, c'est la montagne elle-même, hein, bien sûr, puisque la station, elle se situe donc entourée de montagnes. Alors, la montagne, c'est quoi pour les touristes? Ben, c'est un grand bol d'air. C'est comme ça que souvent, ils le décrivent. Pas forcément d'air pur, mais en tout cas, ils disent un grand bol d'air. Ils parlent beaucoup du coup d'œil, du paysage, du relief. Et puis, ils parlent du caractère totalement dépaysant de la montagne. C'est quand même quelque chose de, en plus, totalement sublime, grandiose. On parle de paysages ouverts, surtout les citadins parlent énormément de l'espace qui est devant eux quand ils arrivent à la montagne. Plus avoir un immeuble en face d'eux ou des rues fermées. Tout en sachant que la montagne reste un élément intimidant et potentiellement dangereux. Hein, donc on l'adore, on l'admire. Ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à s'en approcher de trop près. D'ailleurs, la plupart des gens vont rester sur des pistes damées quand ils seront en vacances de sport d'hiver. Alors, ça, c'est des extraits de personnes qui commentent les stations dans lesquelles ils se trouvaient. Déjà, c'est assez boisé. C'est pas mal de ne pas avoir juste les pistes et les remontées. C'est assez agréable d'être au milieu des sapins. On a moins l'impression d'avoir une station uniquement orientée vers le ski. On vient faire du ski, c'est bien, mais c'est bien aussi de se retrouver en pleine montagne, de ne pas avoir l'impression d'être au milieu d'une ville avec de la neige dedans. Les sapins sont vraiment... Il faudrait qu'il y ait des études sociologiques faites sur les sapins. Il y a vraiment un affectif avec le sapin qui est fantastique. Alors, un dépaysement, je suis originaire de Paris, côté dépaysement, on ne peut pas faire beaucoup mieux, se retrouver devant des massifs tout blancs, c'est extraordinaire, au niveau dépaysement, cela change complètement la vie urbaine et que l'on connaît habituellement. Voilà, donc ça c'est pour traduire un peu cette notion de dépaysement. Bien sûr, comme je l'ai indiqué, quand on se rend en vacances, c'est aussi l'occasion d'être ensemble. Alors, il y a différents types de sociabilité, bien sûr la famille, après il y a la famille élargie avec les grands-parents, qui sont là pour passer du temps ensemble et puis aussi pour s'occuper des petits-enfants pendant que les parents skient. Il y a les tribus et puis il y a aussi un segment de groupes d'hommes qui vont skier ensemble pendant plusieurs jours. Donc qui est très peu étudié d'ailleurs, mais qui mériterait d'être approfondi. Alors, la pratique du ski, elle est appréciable si on skie à son niveau. C'est vraiment une caractéristique qui est liée au sport. Donc, en fait, il y a une demande assez forte pour des gardes d'enfants, des cours de ski, pour que les enfants puissent avoir du ski à leur niveau ou de la garde à leur niveau et que les parents puissent aussi apprécier le ski sans être, entre guillemets, retardés. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en été, par exemple. On dit qu'il y a co-construction de l'expérience, c'est-à-dire que finalement, la station, elle propose une panoplie de services et le client, ben, il va coopérer en ce sens qu'il va se servir de certains aspects, pas d'autres. Donc, on dit, en le résumant, que la station propose et le client dispose. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a une grande partie des vacances qui se font en dehors des griffes, si je puis dire, de la station, c'est-à-dire que les gens vont chercher à passer du temps ensemble, à faire une bonne partie de tarot un soir ou à des choses très simples et qui ne vont pas forcément chercher à toujours être dans des services offerts par la station. Donc, il y a aussi une grande intimité qui s'installe entre les gens dans leur groupe. Globalement, on peut dire que les stations intégrées telles qu'elles ont été conçues étaient tellement en avance sur leur temps qu'elles restent totalement d'actualité. Encore, je dirais même plus que jamais, puisque le modèle dominant qui s'impose dans l'industrie touristique à l'heure actuelle, à l'échelle planétaire, c'est celui de la station intégrée, de l'hôtel club géant, etc. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes dans des services d'une très grande praticité, une grande fluidité de service, avec le rapprochement des services, l'accès aux pistes facilité, vous êtes dans un modèle gagnant. Alors, un dernier apport sur le ski, particulièrement intéressant le ski. Comment les gens le décrivent ? Eh ben, c'est se vider la tête. Alors, c'était assez intéressant de les faire détailler ça. Quand je vous ai dit que la montagne, c'était un univers tellement dépaysant qu'on se plongeait immédiatement dans les vacances, c'est aussi grâce au ski. Parce que pour faire du ski, il faut se concentrer. Bon, on se concentre légèrement et joyeusement, mais on se concentre quand même parce que la faute de car ne pardonne pas. Et les gens disent qu'à partir du moment où ils ont chaussé les skis, ils partent et voilà, ils sont en vacances totales, ils ont tout oublié, ils se vident complètement la tête, ils se font une journée entière de sport et ils reviennent le soir épuisés, mais alors d'une très bonne fatigue assez délicieuse. L'avantage du ski, bien sûr, c'est que c'est aussi un sport sans effort. Bon, il y a bien sûr des limites, hein. Vous connaissez les différentes pratiques de ski, mais on va dire que pour le touriste lambda, c'est un sport qui est vécu comme étant sans trop d'effort, qui est ludique. On peut reprendre l'activité chaque année sans entraînement. Bon, peut-être parler aux médecins en station, ils vous diront pas la même chose. Et puis, c'est un loisir actif. Il y a beaucoup de touristes qui apprécient de se balader dans les domaines, de voir différents points de vue, qui en parlent beaucoup. Et puis, le soir, une sensation de bonne fatigue qui est très agréable, hein. Sentiment très fort de liberté, quel que soit l'âge des participants. Donc là, le ski, il reste... magique en fait. Hein. Alors, on qualifie ça de flow. Alors, le flow, c'est. On a des sociologues des loisirs, et des psychologues des loisirs qui ont très bien étudié ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont beaucoup étudié les sports extrêmes et ils ont regardé comment les gens s'immergeaient dans ces sports-là. Et ils ont produit la théorie du flux, en français, flow en anglais, qui décrit ces états-là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une activité qui produit du flow, c'est une activité qui va vous faire déconnecter complètement de la réalité. Vous allez vous absorber complètement dans votre activité. Et bon, imaginez-vous en train de faire, je ne sais pas moi, un saut à l'élastique ou skydiving ou des choses comme ça. Concentration totale sur l'instant présent, vaut mieux en général. Fait déconnecter du reste, libère des préoccupations habituelles, sensation de liberté, expériences très gratifiantes qui font perdre la notion du temps. Condition d'accès au flow, c'est d'être avec des participants qui sont au même niveau que vous, sinon ça vous retarde, ou alors vous stressez parce que vous n'êtes pas aussi bon que les autres. Et tout ce qui peut vous faire déconcentrer va vous faire sortir de cette impression de flow. Et ça, c'est quelque chose qui a été, comme je disais, très étudié pour des sports extrêmes. Et on se rend compte que dans le ski, il est très très présent pour un sport qui n'est pas extrême tel qu'il est vécu par la plupart des touristes. Donc c'est cet état d'immersion qui est vraiment très important et qui permet d'expliquer le tel succès du ski. Voilà, donc c'est ce qui explique en gros qu'on ait une coupure aussi importante. Donc on a le flow qui est présent quand on skie, et puis plus globalement, ce que les touristes sont venus chercher, c'est ce qu'ils appellent cet état d'immersion. Nous, on est venus pour être bien, se reposer, accéder à une espèce d'état de détente complète et de plénitude qu'on va chercher à maintenir tout le long du séjour. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si faciles dans leur façon d'évaluer leur satisfaction. Les vacances, c'est un investissement de long terme, parce que le bien-être qu'on acquiert pendant les vacances, c'est un bien-être physique qui va perdurer au-delà de la durée, par exemple, de la semaine de ski. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Pour moi, le ski, le dépaysement total. Une semaine à la montagne, c'est l'équivalent des 3 semaines à la mer. En plus, c'est plus actif. Voilà. Donc, les vacances estivales ne semblent pas procurer une telle intensité de défoulement. Bon, je vais peut-être... Je ne sais pas si je vais être un peu court pour le temps. Bon, alors, je vais passer les citations, puis je vais aller directement à la conclusion. Hein. Alors... globalement, quelle est la vision des touristes qu'on rencontre sur la prestation des stations de sport d'hiver? C'est un élément, le ski et les pistes, c'est un élément de satisfaction important. Il n'y a pas de critique majeure, sauf sur la signalétique. Alors, il n'y a rien de pire pour un touriste que de se retrouver dans la mauvaise vallée à 16h30, ou alors de se retrouver dans une noire verglacée alors qu'on a un niveau de bleu. Et ça, c'est vrai que c'est un stress. Et pour ceux qui skient ici, vous savez comme moi qu'on se perd relativement encore facilement dans certaines stations. Et ça, c'est bon. C'est du détail, mais pas tant que ça, parce que ça fait partie de l'expérience des touristes. Globalement, les niveaux de satisfaction des touristes sont très élevés. La part d'autoconstruction reste importante. Être ensemble, se retrouver, c'est important. Mais comme on veut aussi pratiquer du ski à son niveau, on peut plus facilement, entre guillemets, se décharger des enfants qu'on le fera en été. Donc il est important en hiver que chacun se fasse plaisir. La station intégrée reste un modèle qui fonctionne bien. J'irai un peu plus loin, la station intégrée sans voiture, c'est le modèle qui est vraiment primé par tous les touristes. justement se retrouver dans une station où on n'a plus ces voitures qu'on a au quotidien et où la neige reste blanche, c'est vraiment le summum pour eux. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui fonctionne aussi très bien en été. L'absence de voitures est vraiment l'élément gagnant. Côté mercantile du ski et des stations est toujours perçu de façon négative. Et je rajouterais que cette étude est faite sur des gens qui sont en station, bien sûr. Hein, pas sur tous ceux qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus, pour notamment ces raisons-là ou d'autres. Hein. Voilà. Je vais peut-être rester là parce que... Vous voulez que je finisse ? Bon, alors, je finis sur les pistes de réflexion. Alors, voilà, par exemple, les types de conseils qu'on pourrait apporter ou les petites idées qu'on pourrait développer avec des plans de pistes interactifs. Et puis, tout simplement, sur les télésièges. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'enlever vos gants, de sortir votre carte à moitié mouillée, de la déplier, essayer de retrouver les pistes où vous allez aller. Et puis, signalétique sur les pistes. Et puis, un deuxième point qui est important. Les touristes, comme je l'ai dit, aiment bien circuler dans un domaine. Ils connaissent très très mal les montagnes. Il n'y a rien qui ressemble plus à une montagne qu'une autre montagne. Ils ont beaucoup de mal à se repérer et à interpréter le paysage qui est autour d'eux. Donc un minimum d'interaction avec la montagne, voire même sa faune. Bon, sa flore en hiver, c'est un peu délicat, mais ne serait-ce que la faune et puis des indications sur le paysage pourraient être particulièrement intéressants. Ça se fait un peu, mais à mon avis, ce n'est pas du tout assez développé. Et puis des propositions de parcours du domaine à thème, c'est une autre possibilité. Il y a de la demande pour de la liberté sans risque, hein. Demande pour des espaces non damés, même en bord des pistes, ça se fait dans certaines stations aussi. Problème de cohabitation entre skieurs, je dirais que c'est l'élément d'insatisfaction qui est le plus ressorti de tous les touristes. Non seulement il y a des touristes qui sont mal aimables dans les stations, et puis surtout sur les pistes, on stresse, parce qu'on est dans une verte en train de faire son chasse-neige, et puis des boules, quelqu'un à fond la caisse, qui ne fait pas attention, etc. Donc les touristes demandaient énormément des espaces réservés aux débutants, des espaces surfeurs respectés, etc. Il y a une très forte demande pour ça. Mais que fait la station, hein ? Et puis des améliorations certaines à apporter auprès des non-skieurs. Pour l'instant, les non-skieurs sont quand même en grande partie des grands perdants de ces stations. Quand on les trouve et qu'on les interroge, ils sont un peu perdus et ils trouvent quand même qu'il y a vraiment, finalement, globalement, très peu de choses qui sont faites pour eux. Pas d'aménagement d'espace, puis tout simplement des problèmes d'information et d'accès aux activités hors ski. Voilà. Bon, et puis ça, c'est plus ma réflexion universitaire, c'est-à-dire qu'on met en place des échelles qualité qui sont très, très rigide, très tangible, et on se rend compte quand on interroge les touristes que la satisfaction elle se situe ailleurs, beaucoup plus dans les notions de fluidité de service et puis de magie. Et c'est peut-être beaucoup plus là-dessus qu'on devrait s'orienter quand on évalue la satisfaction. J'ai fini. Merci.
Merci Isabelle, mais vous n'avez peut-être pas tout à fait fini, parce que si j'en crois les réactions dans la salle lorsque vous avez annoncé votre départ, il y a peut-être des questions. Alors on va passer au débat. Si vous avez des questions, je pense que des micros vont circuler. Nous avons deux personnes là-haut, en haut des escaliers, avec un micro dans chacune des allées. Je vais essayer de m'éloigner de la lumière pour voir si en effet il y a des mains qui se lèvent.
Bonjour. Je voudrais vous demander, à la dernière intervenante, dans quelle mesure vos remarques sont prises en compte par les services, toutes sortes, les services de tourisme et autres, parce que ce que vous dites pour le balisage l'hiver est également valable pour l'été, c'est les cartes d'interprétation de la montagne, enfin, il y aurait énormément de choses à voir, et voilà, je voudrais savoir... qui prend en compte ce que vous dites très judicieusement. Merci.
Oui, c'est une question à 1 000 euros, je crois, là. Hein, parce que, en fait, moi, pour l'instant, on diffuse énormément. Et après, ce sont les acteurs qui se l'approprient au niveau des autorités locales et dans les stations. Mais moi, après, je n'ai pas vraiment de regard particulier au-delà de ce que je peux diffuser au maximum comme information. Hein. Après, il y a des initiatives locales. Quoi. Il y a des stations qui prennent beaucoup plus en compte les besoins du consommateur que d'autres. Il y a de superbes initiatives dans les Alpes et ailleurs, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est souvent l'effet de personnalité locale qui vont avoir l'idée ou non de prendre en compte ces innovations. Mais c'est vrai que l'été, la signalétique, c'est un terrible problème aussi. Hein. La plupart des gens qui viennent ne sont pas des grands marcheurs. Partir, quand on pense partir une heure et qu'on se retrouve au bout de 3 heures et qu'on n'est pas encore arrivé et qu'il est midi, parce que les gens en général ils partent à 10 heures du matin, ceux qui connaissent pas bien la randonnée, c'est terrible aussi, hein. Donc la signalétique c'est au moins aussi important en été.
Oui, s'il vous plaît. Vous avez fait une étude en questionnant des gens dans la montagne, et globalement, c'est à la gloire de la montagne, parce que les gens sont contents. Mais peut-être que mais ces gens qui sont en montagne, ils sont déjà acquis, puisqu'ils y sont. Par contre, donc, pour compléter l'étude, peut-être qu'il conviendrait d'aller voir les gens qui sont à la mer et leur poser la même question pour savoir pourquoi ils sont à la mer, pourquoi ils ne vont plus à la montagne, s'ils vont les deux, pourquoi ils préfèrent, eux, la mer.
Ah oui, c'est une très bonne remarque, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense même, je suis même convaincue qu'on apprend plus des non-consommateurs que des consommateurs, parfois. Et notamment de ceux qui ne viennent plus. Mais il est vrai que c'est auprès de ces publics-là qu'on doit compléter les études.
Mais c'est peut-être là où on a plus de pistes de ce qu'il faut améliorer, justement.
Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord.
Bonjour, je voulais juste apporter un petit élément de réponse à la dame. Je suis Marie-Pierre Bazan, nouvellement chargée de mission paysage et patrimoine culturel au Parc national de la Vanoise. Et donc justement, concernant les problèmes de signalétique, c'est une chose auxquelles nous, au Parc, on travaille, mais les autres institutions comme le Conseil général également. Après, sur tout ce qui est lecture, interprétation du paysage ou parcours à thème, c'est une réflexion qui se fait sur les moyens d'atteindre ces objectifs, de porter à connaissance aux gens la lecture du paysage. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de garder un paysage le plus préservé par rapport à tous les panneaux de signalétique qu'on y mettrait, de ne pas non plus avoir systématiquement au détour d'un chemin un panneau qui explique tel ou tel paysage, et d'essayer de trouver des médias différents et complémentaires. Ça peut être des promenades accompagnées par des accompagnateurs moyenne montagne, puisqu'on est justement sur un colloque des métiers de la montagne. C'est aussi développer les différents acteurs et ne pas obligatoirement avoir des panneaux in situ qui, finalement, par multiplication, peuvent dénaturer le côté naturel, c'est sauvage, qui a l'air d'être tant apprécié par les gens de visite, mais également par les locaux. Voilà.
Mais je crois qu'il y avait deux choses là. Il y a signalétique et interprétation. Et je pense que là où pour l'instant en été en montagne, on est en retard, c'est sur toutes les connexions qu'on peut avoir entre les touristes et la montagne. Les touristes l'été passent beaucoup à côté de la montagne par faute d'expérience et de connaissances. Nous, quand on les a interrogés, on avait plus d'une centaine. Je crois de mémoire qu'il y en a deux qui ont parlé de marmotte, aucun de bouquelin, aucun de chamois. Et moi, j'étais vraiment très étonnée, parce que s'il n'y a pas quelque chose qui n'est vraiment pas difficile à voir, c'est bien une marmotte. Et il y avait vraiment un manque de connexion, mais par méconnaissance, en fait. Et ils sont très, très demandeurs de visites guidées, de passages d'informations entre cet environnement et eux, parce qu'eux-mêmes seuls, en fait, ils ne sont pas entièrement capables, en tout cas dans les stations, d'y accéder.
On peut ? Oui, pardon, vous parlez du ski, donc on imagine bien que c'est le ski alpin et que vous avez étudié dans des stations de ski alpin. Il serait intéressant d'avoir une étude semblable incluant d'autres pratiques, en particulier le ski nordique, pour voir les attentes et les indices de satisfaction.
Oui, et puis la raquette, et puis aussi partir sur des plus petits villages, et puis d'autres modes de logement aussi, gîtes, etc., bien sûr. Après, bon, ça répond aussi à la question de monsieur tout à l'heure. C'est, pour moi, en tant que chercheur, c'est aussi des questions de financement. Donc, je fais en fonction de ce qui m'est disponible.
Oui, bonjour. J'avais une question sur votre enquête. Vous n'avez jamais abordé le côté économique, c'est-à-dire le prix d'un séjour d'une semaine à la montagne. Est-ce que c'est une question qu'on vous avait demandé de poser ou de ne pas poser ? Parce que le prix d'une semaine à la montagne et 15 jours en été, sont des facteurs quand même déterminants dans le comportement des consommateurs. Donc je voulais savoir si vous aviez abordé cette question-là.
Alors, on ne l'a pas abordé dans le sens qu'on n'a pas travaillé sur le choix et la prise de décision, et on n'a pas non plus travaillé sur les non-consommateurs. Dans ces cas-là, il serait beaucoup plus ressorti. On a laissé les gens parler de ce qui importait pour eux. Et en hiver, le prix n'est jamais remonté, ou très très peu. Par contre, il est énormément remonté en été, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que les gens ont dit qu'en été, s'ils venaient à la montagne, ils pouvaient se permettre de s'acheter, entre guillemets, hein, 2 semaines, voire presque 3 semaines à la montagne, là où ils ne pouvaient se payer qu'une semaine au bord de la mer. Donc l'effet prix était positif en été. Et ceux qui viennent, ceux qu'on trouve sur place en hiver, ce n'était pas un élément dont ils ont parlé, en fait. Donc ils l'ont intégré dans leur choix. Hein, mais je dis bien ceux qu'on interroge sur place. Si on faisait une enquête auprès des non-consommateurs, je pense que ce serait une des premières variables qui remonterait, effectivement. Hein. La Toussuire aussi.
Oui, Camille Chaudan-Langlais, ancien conseiller général et ancien président de la commission des Trois-Vallées. Vous savez que Courchevel, M. Chapin nous l'a dit tout à l'heure, c'était quand même sous l'égide du conseil général. Et ancien président du parc d'Avanoise également et moniteur de ski à Courchevel actuellement. Alors je vous ai apporté quelques éléments de réponse sur pourquoi nos anciens clients ne reviennent plus. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord un manque de moyens financiers, mais il y a aussi un problème sociologique ou psychologique. Moi, j'ai de nombreux clients qui ne reviennent plus. Ils ne viennent pas non seulement à Courchevel, mais même dans d'autres stations. Ils pourraient très bien, par exemple, ils sont en 4 étoiles, ils pourraient très bien l'année suivante venir en 3 ou venir en 2, ou changer de station pour partir de Courchevel pour aller dans des stations village, par exemple. Ça coûte infiniment moins cher. Mais pour eux, c'est psychologiquement impossible. Et moi, à plusieurs reprises, j'aurais posé des questions en disant, mais finalement, vous venez plus, ça coûte trop cher, mais je peux très bien vous rejoindre à Pralognan, je peux très bien vous rejoindre aux Arcs ou ailleurs, où ça coûtera moins cher. Eh bien non, ils vont trouver un argument autre vis-à-vis de leur environnement sociologique, parisien en général, pour dire, bon, on part au soleil. Alors, ils vont partir quelques années au soleil pour quelques fois revenir après, mais voyez, il y a cet aspect de déclassement psychologique et vis-à-vis, encore une fois, vis-à-vis de leur environnement ou de travail ou de relations, eh bien, ils ne vont pas revenir parce que ça les dévalorise. Alors ça, c'est très fréquent, j'ai vu ça très souvent.
Les stations sont des marques. Hein.
Voilà, tout à fait.
On s'affiche à travers sa consommation. C'est pour ça que j'ai parlé de distinction sociale du jugement. J'ai trouvé que c'était très fort dans ce qui remontait des clients. Et alors, inversement, si on leur montre des photos de stations, on va dire, elles sont relativement simples, ils vont s'inscrire dedans si, par exemple, ils sont dans des stations similaires. Si on leur montre des photos de, on va dire, stations très cossues, ils vont dire, ah, ça, c'est pas pour nous. Non, ça, et en plus, ils disent, ça, c'est Courchevel. Il y a une station qui est épinglée, enfin, entre guillemets, hein, comme étant vraiment le fief de top du luxe du ski, c'est Courchevel, dans leur imaginaire.
Vous avez fait une analyse statistique sur des données réelles de clients qui viennent et qui reviennent à la montagne. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui change vite, très vite. Nous avons une démographie européenne qui s'inverse. Les moyens de cette démographie sont parallèles à son inversion. Donc demain, les clients que vous avez contactés, que vous avez écoutés, ne seront plutôt pas ceux de demain. Ceux de demain, je dirais même de demain matin, parce que ça arrive très vite, sont des gens qui vont avoir d'autres ambitions que celles que vous venez de nous décrire. Que pensez-vous pouvoir mettre en place pour ces nouveaux clients? Parce que ce sont les nouveaux clients qu'il faut chercher, ce ne sont pas ceux qu'on a.
C'est difficile à répondre. En tout cas, déjà, il y a un aspect qui, pour moi, manque énormément à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y ait plus de classes de neige et d'initiation tôt. Et parce que ça, ça me paraît catastrophique pour les générations futures, parce qu'il y a quand même un coût d'apprentissage au ski qui n'est pas simple. On a parlé de ski ludique et de ski facile, mais il faut passer un petit moment dans la neige avant d'y arriver, quoi. Et ça, pour moi, c'est assez catastrophique pour le futur. Et, oui, bon. Mais ça me paraît être un élément important. Hein. Après, je pense qu'il va falloir diversifier les services en station. À mon avis, on va aller de plus en plus vers une demande multiple, c'est-à-dire qu'il y aura du ski et d'autres choses à côté. Et c'est ça, sur ce sujet, pour l'instant, je trouve qu'on est encore un peu en retrait. On est encore très, très axé sur le ski. Et on se rend compte, quand on interroge les gens, que finalement, il y a une multiplicité des praticités en dehors du ski qui est recherchée. Il y a la tendance dominante des comportements touristiques actuels, c'est quand même vraiment le repos absolu. Alors bon, au ski, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a l'activité, mais c'est une activité ludique. Mais il y a une demande pour d'autres types d'activités plus reposantes et en phase avec cet objectif de relaxation qu'on est venu chercher. Je pense que les gens skient, bon, on regarde des statistiques de pratique journalière, les gens skient quand même beaucoup moins qu'avant, de façon moins intensive. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Si on reste uniquement sur le ski, on risque de se détacher d'une grande partie, on va dire, des touristes moyens qui viennent en station.
N'oublions pas que le ski, c'est quand même une partie démographique de gens relativement jeunes et actifs. Alors, j'ai fait une analyse cet hiver, au travers de mes expériences, c'est que les gens viennent chercher aussi l'autre en station. L'autre, ils ne le trouvent plus. Ils ne le trouvent plus parce que nos stations sont basées sur sur un système économique qui était un système tout à fait honorable à l'époque, mais qui, je crois, aujourd'hui, est en train de prendre des coups et qui va en prendre de plus en plus. C'est que la majorité des clients des stations intégrées, entre autres, sont des touristes qui viennent en résidence de tourisme, pour la plupart. Ces touristes viennent en résidence de tourisme. La résidence de tourisme a comme objectif, c'est que ses clients ne fassent rien d'autre en dehors de la résidence de tourisme que du ski. Conclusion, ils annihilent totalement la rencontre avec l'autre. Et nous avons pu remarquer beaucoup une perte de renouvellement des clientèles à cause de cela, parce que les gens sortent de la résidence dans laquelle ils trouvent déjà des commerces, ils trouvent tous les services. Et quand ils sortent, ils disent, mais on ne voit personne, on ne voit rien sur les sites. Mais pour qu'on voit des choses sur les sites, il faut que ces sites vivent et que donc l'ensemble des partenaires acceptent qu'il y ait un partage des activités et un partage des actions. Sinon, les gens resteront enfermés et c'est ce qui tuera la station.
Je serais d'accord, mais qu'en partie, hein, parce que en même temps, la demande actuelle est pour de la résidence très fortement, et c'est en train de prendre. On le savait depuis quelques années, mais là vraiment à l'heure actuelle, on se rend compte que c'est en train de devenir le modèle de base de demande des touristes. Alors, est-ce qu'on peut trouver des résidences qui soient plus imbriquées localement? Et c'est peut-être réfléchir au modèle des résidences, mais les résidences en elles-mêmes sont le modèle qui est en train de s'imposer. Donc peut-être qu'il faut le garder et le reconcevoir, oui. Mais voilà, l'adapter, tout à fait.
Bah, j'aimerais vous répondre. Vous avez raison et vous n'avez pas raison. Si vous prenez par exemple un organisme qu'on connaît bien à Chambéry ou Renouveau, et je suis juste client de temps en temps, vous retrouvez dans le nouveau catalogue, vous avez le tout-ski, vous avez la raquette, vous avez, pour ceux qui ne skient pas, qui viennent avec les petits-enfants, on vous offre maintenant, même pendant l'hiver, un certain nombre de programmes auxquels les gens adhèrent. Et ça, c'est intéressant. Bon, alors, vous voyez aussi, les prix sont en descendant. Le tout-ski, c'est le haut. Après, le moyen, la raquette. Et puis après, les différentes sorties, etc. C'est quand même intéressant. C'est une évolution qui est prise en compte maintenant. Merci.
D'autres questions ? Apparemment pas d'autres questions, donc on va... Si, ah, pardon.
Bonjour. J'ai une question pendant les gens que vous avez interrogés, ils avaient quel âge ? Vous avez interrogé des jeunes, après aussi tout âge ou...
Oui, on a mélangé tous les âges, y compris des nonces des surfeurs qui étaient là en groupe d'amis, aux retraités qui ne skiaient pas, mais qui étaient là pour accompagner la famille. On a vraiment eu tout et toutes sortes de pratiques.
D'accord. Voilà.
Oui, nous on a interrogé. Alors, j'en ai pas parlé là, mais il y a une partie de l'étude qui est faite sur les Anglais, notamment l'étude à Méribel s'est concentrée uniquement sur les Anglais en fait. Et on a fait des entretiens en anglais. Et c'était. Alors là, voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. Là, s'il y a un groupe auprès duquel le prix est ressorti, c'est les Anglais, comme un élément potentiellement rédhibitoire dans le long terme. Alors, quand on les a interrogés. La crise venait juste de se produire. Ils avaient déjà réservé leurs vacances. Donc, en fait, ils étaient là. Ils ont une capacité à avoir recours au crédit qui est plus forte que nous, donc ils ne s'inquiétaient pas trop. Mais ils disaient quand même bien que, notamment à Méribel, les prix étaient très élevés. Et puis, en plus, ils viennent... Tous ceux qu'on interroge à Méribel venaient dans des systèmes très fermés, le système des chalets anglais, où tout est servi sur place. Et c'est vrai que... Quand on va regarder sur les sites web de ces produits-là, quoi, c'est vraiment hors de prix. Enfin, pour des chalets partagés de 16 à 20 personnes, ils sont à facilement entre 1 200 et 1 500 livres la semaine par personne.
Et il n'y a aucune retombée pour la station.
Alors là, par contre, je pense qu'il faudrait vraiment faire une étude parce que je ne suis pas certaine. Parce qu'il y a quand même des consommations. Les chalets s'approvisionnent quand même localement. Ils ont été construits localement. Ils peuvent appartenir à des propriétaires français. Bon, là-dessus, je pense qu'il faudrait vraiment faire une étude parce qu'il y a différents niveaux. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous que c'est un circuit fermé, relativement fermé. Oui.
Avec du personnel qui vient d'Angleterre et qui est payé à coup de lance.
Alors, le personnel, là, je suis d'accord.
C'est bien d'accord.
Oui.
Moi, j'ai une réaction par rapport au débat qui est dominant sur le sujet du ski. C'est toujours moi, voilà, du parc de la Vanoise. Et apparemment, donc, il y a un hiver qui est apparemment vécu par rapport au ski en montagne. Et quand je lis le titre « Mon pays, c'est l'hiver », est-ce qu'il n'y a pas deux manières d'interpréter « Mon pays, c'est l'hiver » la manière d'interpréter par les gens qui vivent de l'industrie du ski et une manière d'interpréter avec ce qu'on a lu dans l'introduction, 7 mois d'hiver, 5 mois d'enfer. Est-ce qu'il n'y a pas deux façons de vivre l'hiver en montagne ?
Oui, il y a certainement deux façons de vivre l'hiver en montagne. La façon rurale qui est en voie de disparition et puis la façon touristique qui elle-même peut-être est aussi en voie de disparition. Alors moi, j'ai juste un petit regret. Alors nous avons d'ailleurs un article dans ce numéro qui s'intitule « Je déteste le ski ». C'est un scientifique valaisan qui nous explique qu'il habite à deux pas d'une station, mais alors qu'il déteste le ski pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, certaines que vous aviez évoquées vous-même dans votre étude, c'est assez rigolo. C'est évidemment un papier d'humeur. Mais on aime bien, nous, ces regards un peu iconoclastes. Et tout à l'heure, quand la personne qui était là au milieu de la salle disait « Mais au fond, il faudrait aussi interroger ceux qui ne viennent pas. » Et j'en connais plein, moi, des amis parisiens qui n'ont jamais mis les pieds à la montagne en hiver, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas appris le ski et que c'est une destination qui ne leur dit rien. Alors nous avons dans ce numéro un article d'ouverture de Jean Guibal qui nous explique un peu ça, cette différence entre finalement l'hiver de nos ancêtres et l'hiver d'aujourd'hui. Et puis j'aurais aimé moi clore ce numéro avec une contribution d'un scientifique qui nous aurait expliqué ce que seraient demain les Alpes. Dans tous les domaines, économiques, paysagers, environnementaux, etc. Si les pires prévisions de réchauffement du climat s'avéraient justes, eh bien, nous n'avons trouvé personne qui ait pu répondre à ça, qui ait pris au moins le risque ou qui ait eu l'imagination suffisante pour nous dire, bah, tiens, ça pourrait être ça. Et je pense qu'en fait, au fond, on a un peu de mal à mettre des points d'interrogation derrière les choses. Et je le dis d'ailleurs dans l'édito, en clôturant cet édito de ce numéro, en disant, après tout, on parle de réchauffement climatique. Je ne sais pas si ça aura un impact sur les stations. Et en l'occurrence, même les scientifiques ne veulent pas se mouiller. Mais en tout cas, sur le réchauffement climatique, je n'ai entendu personne ou très peu de personnes qui m'aient expliqué si peut-être le réchauffement climatique avait des effets positifs. Et j'en vois quelques-uns, hein, du genre, encore une fois, je l'ai dit dans l'édito, prendre son apéro à Val Thorens à 2800 mètres d'altitude sur la terrasse en été, ça c'est possible. Peut-être aura-t-on des chameliers qui nous amèneront les déserts, les glaçons dans le désert autour de Nice. Et puis peut-être pourrait-on planter de la vigne jusque dans les hautes vallées de l'Oisans. Enfin, il y a peut-être des aspects positifs que là non plus, personne n'évoque jamais. C'est mon grand regret pour ce numéro, puisque le petit texte d'introduction de ce colloque se terminait par ça. Et demain, si la neige n'existait plus, enfin, l'hiver passera-t-il l'hiver ? Eh bien, moi, je suis un pauvre saltimbanque de journaliste et je ne peux pas le dire, mais les scientifiques qui pourraient s'engager, eux, ne s'engagent que peu. Dommage.
Pas du tout. Allez-y.
Oui, c'est mon tour, peut-être.
Oui, les scientifiques s'engagent même très peu, hein, sur l'évolution future des climats.
En fait, je crois que les scientifiques ils s'engagent très bien, seulement ils sont partagés entre les pour et les contre. Il y a ceux qui nous annoncent... Je vais revenir sur Nice, permettez-moi de parler de ma chapelle que je connais moins mal que les autres, mais à Nice, on nous annonce effectivement un climat qui se rapproche de celui du sud de la Tunisie, ce qui veut dire qu'on va, j'imagine, avoir de belles dunes de sable, des chameaux, etc. etc. Est-ce que ça changera quelque chose dans des comportements ? Franchement, j'en sais rien. C'est pas la première fois que ça se produit dans l'histoire de l'humanité. Le Groenland, ça veut dire la terre verte. Le Vinland, ça veut dire le pays de la vigne. Donc c'est quand même des régions qui ont connu ça en d'autres épisodes. Et l'homme a toujours su fort bien s'y adapter. Parce que la capacité de l'homme, c'est de toute façon de refuser littéralement son environnement et de l'aménager de telle sorte qu'il puisse apporter la réponse qui lui fait plaisir à un environnement qui est par définition lui est hostile. Bon, aujourd'hui, on a un discours qui est différent, c'est il faut à tout prix respecter l'environnement, etc. Bon, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, on sait très très bien qu'on ne le fera pas. Il ne faut pas se leurrer et qu'il y a beaucoup de choses qu'on continuera de subir de la sorte. Ce qui fait que les scientifiques, à la limite, s'ils ont les outils, ils vont pouvoir nous dire voilà ce qui nous attend en termes de degrés, en termes de changement de paysage, de végétation, etc. etc. Mais ils sont incapables, ce n'est pas leur rôle de toute façon, de nous dire voilà comment vous vivrez ou comment vos descendants vivront les vacances au ski en hiver, par exemple, lorsqu'il n'y aura plus de neige. Il n'y aura plus de vacances au ski en hiver dans les Alpes quand il n'y aura plus de neige. Moi, ça me paraît évident. Bon, mais est-ce qu'il n'y aura plus de neige ? Ça, c'est moins évident. Personne ne se lancera effectivement pour la fille. Pour l'affirmer, c'est tout.
Je vais prendre la parole. Ça fait un moment que j'attends. Merci. Donc, Josiane Lanier, je suis monitrice de ski nordique, ici à Savoie-Grand-Revard, juste au-dessus de nos têtes. Monsieur le Niçois, nous avons maintenant des cigales au pied, enfin à côté de Chambéry, mais la neige est là et on est au mois de novembre, tout de même. Donc, l'hiver, ce n'est pas forcément des grosses quantités de neige. C'est peut-être pas beaucoup de neige, mais encore de la neige. Et notamment, le ski nordique n'a pas vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de neige. Bon, ça, c'était une petite aparté pour... voilà. Mais ma question, en fait, c'était dans les personnes que vous avez interrogées, madame. Est-ce que vous avez interrogé les Savoyards, les gens qui habitent autour des montagnes, dans les Piémonts, Chambérien, etc. Voilà. Parce que ce sont des clients qui sont très peu nombreux dans les stations.
C'était pas l'objectif de l'étude. Hein. On a interrogé.
Excusez-moi, je ne suis là que depuis 25
minutes.
Oui,
non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas tout précisé. On l'a fait uniquement au niveau des jeunes locaux, c'est-à-dire jeunes étudiants, j'entends 18-25 ans. Et là, on a fait des entretiens à Annecy et à Chambéry. Et on était surpris, effectivement, de voir que même parmi des jeunes qui savent skier, en fin de saison, ben, ils n'étaient pas les skis de la saison. Il y a eu d'autres choses qui s'étaient mises en place. Ils n'avaient pas le réflexe de monter nécessairement. Et alors, c'est vrai que si on parlait de prix tout à l'heure, auprès de ce public-là, le prix est crucial. Et puis l'accès aussi. Beaucoup parlent de problèmes d'accès, qu'il n'y ait pas de tarif étudiant quand partout on en trouve. On a interrogé des jeunes à Annecy qui venaient jusqu'au Sept-Lô, parce que les Sept-Lô sont des rares stations à faire des prix étudiants. Enfin, je me souviens bien de mémoire. Donc, alors là, c'est vraiment un marché qui, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas du tout intégré dans beaucoup de stations. Alors, je vous rappelle qu'on a pris des stations d'altitude. Hein. Ouais. On n'a pas pris, par exemple, Champs-Rousses, Sept-Lô ou des stations de proximité. ce serait intéressant effectivement de faire la même étude sur ces stations-là.
Et oui, elles existent. Elles sont nombreuses en plus.
Bien sûr.
Et inconnues souvent, parfois. Voilà. Donc là, le public dont vous me parlez, c'est un public dans ces âges-là. On a quand même d'autres choses à faire que de faire du ski, de la montagne, etc. Hein, il y a quand même la découverte de leur avenir. Mais c'est aussi parce que ce public-là, dans leur jeunesse, n'ont pas eu forcément les bonnes découvertes. Mmh. Et je sais de quoi je parle parce que je suis sur le terrain encore. Et c'est vraiment catastrophique. Comment sont encadrés les enfants ? En alpin aussi, en fond, c'est certain.
Vous voulez dire au niveau des cours de ski ou des classes de neige ?
Ils n'ont pas de cours de ski, hein, ils sont encadrés. Ouais. Donc on les dégoûte d'avance. Donc après, derrière, poursuivre des envies pour toute leur vie, c'est difficile.
Ça, c'est encore un autre, une autre étude.
J'aurais voulu revenir sur la question là, de la conclusion que vous cherchiez là, sur les conséquences du climat. Et dans les questions que je ne sais pas si vous les avez posées sur quel est l'avenir de la montagne qu'aurait pu se poser quelqu'un qui est un praticien, un touriste, quoi, comment il voyait l'avenir. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi le problème des friches touristiques au même titre que les friches industrielles ? Si on imagine que les modèles économiques puissent bouger, peut-être autrement qu'uniquement en termes climatiques, et qu'on voit que les grands hôtels PLM du début du siècle ont été reconvertis, transformés avec justement l'évolution du modèle économique. Est-ce que la question a été posée ou est-ce qu'on vous a posé la question dans vos recherches sur l'évolution des modèles qui font qu'on peut être confronté, comme on a été confronté aux friches industrielles, dans les problèmes extrêmement complexes de reconversion de bassins, de reconversion de systèmes, à des reconversions de friches touristiques?
Ça, c'est des questions qui dépassent complètement les touristes. Hein. Eux, ils sont là.
Votre avis,
mon avis à moi, mon avis, il est que pour l'instant, au niveau de la consommation touristique, les gens n'ont pas ou très très faible compréhension des enjeux environnementaux. Mais je pense que c'est vrai pour la population de manière générale. Et c'est ce qui me désole le plus. Personne n'a parlé de canon à neige dans toute notre enquête, à aucun moment aucun touriste n'en a parlé, donc j'ai trouvé que c'est quand même assez inquiétant. Et je trouve que pour l'instant c'est très difficile de répondre à vos questions parce que comme les scientifiques sont un petit peu divisés et qu'en plus c'est un modèle économique dominant, personne ne veut s'engager du coup quelque part. Donc en fait on va continuer un peu sur cette dynamique qu'on a créée jusqu'à présent, ce qui est normal. Je dirais ce qui est. Je pense qu'on est encore loin d'être à l'état de friche. En tout cas, dans les stations d'altitude. On en a, à mon avis, encore très loin.
Voilà. Excusez-moi, je vous rejoins là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne se pose peut-être pas la question encore dans les stations de haute montagne en France. Par contre, on va se poser des questions sur les stations de moyenne montagne. Et je pense que quand on parle des Alpes ou de l'Alpe, on peut regarder aussi ce que font nos voisins. Je pense à l'Autriche et à la Suisse qui se posent déjà la question. Il y a déjà des stations qui ont commencé à démonter leur remontée mécanique. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses, des questions qui se sont posées. Et ça me fait penser, enfin, je reviens un peu à la conclusion que vous faisiez tout à l'heure. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a une table ronde qui avait été faite justement sur ce problème du réchauffement climatique et du devenir du tourisme dans nos montagnes. Ça avait été organisé par l'association Mountain Riders. Peut-être que vous y aviez assisté. Je pense qu'il y a des discussions qui pourraient être menées aussi avec eux là-dessus. Et justement sur les métiers ensuite qui pourraient être créés. Ça, c'est pour repositionner par rapport au contexte d'aujourd'hui, donc avec ce festival.
Oui, par contre, sur la moyenne montagne, j'aurais peut-être pas la même réponse. C'est-à-dire que il y a effectivement plus de questions forcément qui vont se poser sur l'hiver. Par contre, il y a beaucoup plus d'opportunités sur l'été, telles que je le vois au niveau de la moyenne montagne, et qu'elle est sous-exploitée. Alors, l'altitude l'est, mais je pense que la moyenne montagne a une énorme carte à jouer à ce niveau-là, avec son environnement, à condition d'être à nouveau dans l'intermédiation, l'interprétation, de savoir guider les touristes. Donc je pense qu'il faut raisonner aussi globalement sur l'année et que Peut-être que là où les moyennes stations vont être perdantes sur l'hiver, elles vont pas forcément tout perdre pour autant, en fait. Et elles ont de la ressource, à mon avis. Beaucoup plus qu'elles ne le pensent. Elles prennent trop les grandes stations comme modèle, parfois. Et en faisant un complexe d'infériorité qui, pour moi, n'est pas mérité. Et voilà, pas justifié.
Pardon. Oui, cette discussion... Excusez-moi pour ma voix. Il y avait deux points. Pardon, sur lequel je voulais revenir. Vous avez parlé de l'ailleurs en interrogeant vos clients, enfin les clients des stations. La saison hivernale, l'ailleurs peut se décliner de plusieurs manières. Il n'y a pas que la station intégrée et il n'y a pas que les sports d'hiver. Je crois que la remarque de monsieur était intéressante parce qu'aujourd'hui, dans les gens qui viennent chercher un ailleurs, qu'ils soient citadins des lieux très excentrés par rapport aux Alpes, ou qu'ils soient eux-mêmes des Alpins en vallée, ont des, dans leur imaginaire, mais dans leur pratique aussi, des ailleurs qui ne sont pas seulement des stations intégrées et qui peuvent se décliner sur des fonds de vallée, des villages, des lieux de ressourcement, dans lesquels c'est la pratique hivernale avec la neige, mais pas forcément le ski alpin non plus, et de plus en plus très certainement. Et par ailleurs, dans cette, donc c'est juste pour dire... À côté de cet aspect-là du tourisme, des grandes stations, il y a beaucoup d'autres et de plus en plus aujourd'hui. Il y a 6 mois ici une rencontre sur le tourisme solidaire, il me semble que ça s'appelait comme ça, et qui montrait que des pratiques nouvelles se développaient et des attentes nouvelles de la population de prise en charge et non pas d'être prise en charge par d'autres personnes comme dans le système de la station intégrée. Ceci pour dire aussi que le système de la station intégrée est pensé ou a été pensé dans les années 60, dans les années 50-60, avec une vision, avec un regard démographique, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'on a vu comment les courbes démographiques pouvaient évoluer. Et je veux dire, ce système-là, il faut s'interroger pour savoir comment il peut durer ou est-ce qu'il y a à côté d'autres dispositifs qui sont en train de naître et d'éclore, qui répondent à des attentes totalement différentes des gens et qui, pour autant, ont cette même relation avec l'hiver, la neige, l'altitude, le ressourcement, l'ailleurs. Le deuxième point que je voulais faire remarque, c'était pour rassurer Pascal, parce que son attente sur la personne qui pourrait lui raconter ou lui évoquer comment la montagne, dans un siècle, serait, s'il y a évolution climatique ou autre, tu l'as avec Laurent Chapy, parce que, et il leur dit quand il était à l'oral, c'est que c'est vrai que peu de scientifiques osent se positionner parce qu'il y a un tellement grand nombre de paramètres qu'il faut être un peu comme ça, hors, pas du monde, mais enfin, hors des responsabilités et dans une vision utopique et détaché presque de tout engagement pour pouvoir oser dire des perspectives qui sont peut-être utopiques, mais qui en même temps nous font réfléchir pour demain. Et dans un dernier document qu'il est en train de préparer, il a même évoqué, enfin on a partagé là-dessus, sur l'évolution de l'étagement alpin, c'est-à-dire ce système traditionnel mis en place, enfin bien décrit, mis en place par la société agropastorale et bien décrit par nombreux géographes, ethnographes ou historiens. Eh bien, il dit si le climat se réchauffe, on va habiter plus haut, et puis si on habite et à l'étage en dessous, le climat sera très bon pour l'agriculture. Et puis, si on habite là, eh bien, on ira en vacances l'été plus haut. Et puis, l'hiver, on ira à 3000 mètres. Et à 4000 mètres, on verra bien ce qu'on fera. Donc, voilà, tu l'as, la vue prospective.
Dure vie pour les chamois et les bouquetins de l'avenir. Il y a peut-être une chose aussi... moi, j'ai tendance à être résolument optimiste. La sociologie, l'anthropologie, le modèle culturel alpin a été fondé pendant extrêmement longtemps sur un échange entre les Alpes et les plaines, les montagnes et les plaines, qui faisait qu'à cause de la pente et du climat, on avait besoin dans les Alpes d'une surpopulation que l'on était incapable de nourrir l'hiver. Ce qui veut dire que cette population, c'était pas du tout comme ça qu'il faut le voir, mais si j'ose dire, faisait du tourisme hivernal dans la ville. Bon, après ça, on a inversé, et effectivement, c'est quand même très très récent, ça a été surtout marqué après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est les gens de la ville qui vont faire du tourisme, la montagne, l'hiver. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 50-60 ans à tout casser, on a complètement vu s'inverser un modèle, c'est-à-dire que les Alpes qui produisaient des gens qui allaient à la ville l'hiver, maintenant produisent des gens qui accueillent les citadins l'hiver. Donc deux générations, on a complètement bouleversé un système qui avait quand même quelques siècles d'existence derrière lui. Je pense qu'en l'espace de deux générations, on peut très très bien envisager de revenir à un autre système, d'en inventer un troisième, pourquoi pas. Moi, je vous dis franchement, j'ai plutôt tendance à rester extrêmement optimiste et je crois que ce qui nous bloque, et c'est pour ça que j'ai trouvé l'architecte urbaniste un peu anarchiste extraordinaire, c'est de dire, mais pourquoi veut-on absolument se cadrer avec une administration, avec des responsables, avec des directives, avec des amendes si on outrepasse, etc., alors qu'on a une capacité d'invention. Et c'est quand même surtout, je pense, là-dessus qu'il faut fonder l'avenir de l'homme. Nous en avons été menacés, madame, il y a quelques années. Non, et c'était même pire que ça, parce qu'on avait les Jeux Olympiques d'été à Nice et les Jeux Olympiques d'hiver dans le Mercantour. Donc voilà. Oui, effectivement, nous avons connu ça.
Je voulais juste dire un mot, c'est que je trouve étonnant de voir qu'il y a quand même des scientifiques qui travaillent sur cet avenir de la montagne, en particulier des stations de montagne, y compris des stations d'altitude, et pas depuis aujourd'hui. Ça fait bien une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Vous avez Philippe Bourdeau, vous avez Marie Wozniak et beaucoup d'autres. Et on a l'impression que toutes leurs analyses restent lettres mortes face, je dirais, au pouvoir des supermarchés de la Blanche. Je le dis comme ça. Et c'est dommage, parce que ces gens-là ont quand même des éléments extrêmement importants. Je crois, pour terminer, que la montagne et les stations de montagne ne pourront vivre dans l'avenir que si elles sont capables de vivre autrement que saisonnièrement. Et il faudra trouver en station de montagne des activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient sportives, qu'elles soient comme dans une petite ville. Si on n'est pas capable de faire ça, on aura de graves soucis pour notre avenir des montagnes.
Pour rebondir sur votre intervention, monsieur, puisque vous citiez Philippe Bourdeau, je vous invite à lire, puisque ce numéro « Mon pays, c'est l'hiver » n'est pas encore paru, je vous invite à lire dans le numéro qui est actuellement en vente, qui d'ailleurs est en vente sur un stand à côté de l'Alpage Café, là, dans le chapiteau en face, puisque nous avons un stand de l'Alpe. Dans le numéro qui est encore en vente aujourd'hui, donc qui était consacré au métier de la montagne, je vous invite à lire l'article de Philippe Bourdeau, qui était très intéressant, en ouverture de ce numéro, et qui expliquait comment, au fond, la montagne est peut-être a toujours été une sorte de laboratoire de l'organisation des modèles sociaux. Et au fond, enfin, Philippe était assez iconoclaste là en évoquant cette question, mais toutes ces questions liées au développement du néolibéralisme et d'une disparition progressive du salariat, que la montagne a bien été un prélude en quelque sorte avec les statuts des intermittents, pas des intermittents, mais des pluriactifs, des gens qui avaient un double métier. Donc je vous invite à lire cet article qui est vraiment très passionnant et qui en dit probablement long sur ce que pourraient être les métiers des montagnards dans 10 ans ou dans 20 ans.
Oui, et puis je pensais aussi, j'étais en contact dans la préparation de ce numéro avec un monsieur qui a fait, alors je ne sais plus ce qu'il est exactement, ingénieur, qui a commis, enfin ils étaient trois, une étude qui leur a été, ça marche pas aussi ? Une étude qui leur a été demandée sur la neige de culture, justement, il y a eu des pages et des pages et des pages, et apparemment assez critique en fait sur la neige de culture. Il le dit un peu dans l'introduction. Et quand je l'ai contacté pour voir s'il pouvait faire quelque chose, bon, c'était un petit peu tard, il n'avait pas le temps d'écrire. Et je lui ai dit, et puis finalement, est-ce que ça a des répercussions, puisque vous étiez quand même assez négatif par rapport à ça, justement par rapport à cette espèce de course en avant, voilà, et bon, et les problèmes de ressources en eau, enfin, etc., puisqu'on parlait des canaux à neige. Et il m'a dit, oh, ma pauvre dame, il me dit, si vous saviez, j'ai bien l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et je lui ai dit, bah, écoutez, ça serait vachement bien que vous écriviez un article là-dessus dans un numéro à venir. Il dit, bon, la seule chose, c'est que pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que par rapport, ça a été une étude commandée par un ministère, etc. Donc politiquement, c'est très compliqué. Mais Il m'a laissé comprendre qu'en fait, entre l'étude qui était plutôt allait jusqu'à dire attendez, il y a peut-être des moments, justement, des endroits, et c'était un peu ça, c'était justement sur les stations de moyenne montagne qui poussaient à la roue pour essayer de continuer à survivre. Et lui, il avait plutôt l'air de dire que, bah non, il fallait peut-être changer de développement économique. Et il dit malheureusement, c'est pas tellement entendu et on peut pas tellement le dire non plus, vu la façon dont ça s'est passé. On a été payé pour faire ses études, etc. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, très clairement, que les. Entre les études et puis la façon dont les politiques et dont les décideurs, enfin tout ça, et l'économie en général, ça ne suit pas derrière, quoi, très clairement.
D'autres questions? Bien, mais écoutez, nous allons en rester là. Le prochain colloque de Montagnéa avec l'Alpe, je crois qu'on avait calé une date, mais je ne l'ai pas en tête. Sachez qu'il sera probablement consacré à tout ce qui vole en montagne, puisque le prochain numéro de l'Alpe s'appellera Par la voie des airs, donc depuis les aérostiers jusqu'aux pilotes de Mirage. C'est un numéro qui paraîtra tout début mars et sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler. Donc je vous rappelle que dans le cadre du festival, nous avons quelques offres particulières à la fois d'abonnement et d'achat de numéros sur un petit stand qui est situé à côté de l'Alpage Café dans le chapiteau qui est en face du manège. Si vous voulez entre autres consulter la collection intégrale des numéros, puisque nous en sommes actuellement au 51, ils sont là-bas en face. Merci à toutes, merci à tous de votre présence et à une prochaine fois.